Nous aurions toujours aimé les faire dans la librairie, mais étant donné l'affluence jusqu'à ce jour, nous avons toujours fait ces rencontres dans cette salle. Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette rencontre avec Stéphane Lauzet, que nous saluons, et qui vient donc ce soir nous parler, nous causer, j'ai envie de dire, de la représentation des évangéliques en France. Représentation qui pose donc un certain nombre de questions, qui en a certainement toujours posé, mais peut-être plus aujourd'hui, notamment avec la mise en place de ce qu'il est convenu d'appeler le CNEF. Les églises considérées par certains comme historiques, le protestantisme historique, dans certains articles de leurs journaux, s'inquiètent de la démarche du CNEF qui tend et qui vraisemblablement confirme cette volonté de s'institutionnaliser. Le CNEF, au départ, donc, était, je vous le rappelle, une plateforme de discussion, d'échange, qui est née, je fais très bref, hein, parce que Stéphane Lauzet va y venir, qui est née de cette volonté de l'Alliance évangélique française et de la Fédération évangélique française, des deux secrétaires généraux. Pourquoi ? Parce que Stéphane Lauzet déclarait lui-même dans un numéro de Réforme qu'environ 70 à 80% des évangéliques français ne sont pas représentés. Donc c'est vraisemblablement une des raisons qui sous-tend la création, tout du moins l'institutionnalisation du CNEF, afin de représenter mieux les évangéliques français. Mais il est évident que, je pense, les objectifs du CNEF dépassent cette volonté de représentation. Hein, il y a aussi, je pense, une volonté de missionologie, reprenant le fameux manifeste de Manille, et puis d'autres missions encore que le CNEF veut bien se donner. Voilà, donc Stéphane Lauzet va nous présenter toute cette évolution de l'Alliance évangélique, puisque je pense que c'est ce qu'il connaît le mieux par rapport à la Fédération évangélique française, et puis ensuite l'évolution donc, qui conduit au CNEF, et après quoi je vous propose d'avoir un moment libre de discussion, plus de questions, je dirais, de discussion entre nous. Voilà.
Merci. Alors c'est au coin du livre, c'est ça ?
Au coin du livre, oui.
Et moi, je n'ai pas écrit de livre, hein. Pas comme d'autres, hein. Mais cette petite entorse me permet quand même de prendre du temps ce soir, à peu près une vingtaine de minutes, hein, sauf erreur, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, entre 20 minutes, une demi-heure. Hein,
d'accord, voilà. Avant que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez sur le propos que je vais tenir. Alors, je vais, dans un premier temps, évoquer avec vous quelques éléments concernant le paysage protestant évangélique dans notre pays, en vous parlant de quelques-uns de ces acteurs, dont l'Alliance évangélique française, effectivement, dont je suis le secrétaire général maintenant depuis septembre 1995, après avoir été pasteur pendant une vingtaine d'années en Charente puis à Nîmes. Et je serai de vous expliquer dans un deuxième temps ce qui a amené à créer, ou à vouloir créer, on va le dire comme ça encore, à l'heure qu'il est, à vouloir créer le CNEF. Et dans un troisième temps, j'expliquerai assez rapidement ce qu'est le CNEF, et au travers de ce que je dirai et de ce que je ne dirai pas aussi, et vous pourrez peut-être après alimenter votre propre réflexion et ne pas hésiter à me solliciter. Voilà. Alors, concernant le paysage évangélique en France, je ne crois pas vous apprendre grand-chose en vous disant que les églises évangéliques... Alors, il faudrait chaque fois, mais pour gagner du temps, on va l'économiser, chaque fois dire les églises protestantes évangéliques. Hein, parce que les églises évangéliques doivent et peuvent revendiquer l'héritage de la Réforme, elles aussi. Mais bon, par commodité et par rapidité, on dira l'église évangélique. Donc, les églises évangéliques ont grandi de manière assez remarquable, je veux dire par là qu'on a vu qu'elles grandissaient, depuis les années 70. Et si vous regardez les chiffres que Daniel Lichty, missiologue et par ailleurs vice-président de la Fédération évangélique de France, communique régulièrement dans l'annuaire évangélique, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, si on compte les églises en métropole, dans l'Hexagone et puis dans les dom-toms, on est à plus de 2200 lieux de culte protestants évangéliques. Ce qui, qu'on le veuille ou non, c'est les chiffres bruts comme ça, est supérieur aux lieux de culte luthéro-réformés. Donc ça, c'est une première réalité, je dirais, numérique. La seconde réalité numérique, c'est que, à l'occasion du dernier sondage d'envergure qui a été fait il y a de ça quelques années par l'hebdomadaire Réforme et le quotidien La Croix, pour la première fois, un sondage sur le protestantisme, pour la première fois apparaît dans le sondage l'émergence du mouvement évangélique. Alors, on n'est pas là pour parler de ce sondage, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, mais on retrouve dans ce sondage, grosso modo à peu près, un quart à peu près de personnes qui se déclarent évangéliques. Alors curieusement, certaines se déclarent évangéliques et d'autres se déclarent baptistes, et d'autres se déclarent pentecôtistes, mais tout ça, normalement, ça fait partie de la même famille. Mais Jean-Paul Willem, qui analyse ce sondage, remarque que... il l'analyse, mais c'est Sébastien Fatt qui remarque dans ce sondage que, voilà, pour la première fois, les évangéliques ne sont plus non identifiés, on arrive à les cerner, à les trouver, et ils sont devenus visibles. Alors, ça, c'est deux éléments importants. Le troisième élément important, c'est que on peut dire, grosso modo, que ces évangéliques, les chiffres sont toujours difficiles à manier, mais représentent à peu près 400 000 personnes, alors que le protestantisme, dans sa globalité, va afficher 1 200 000 à peu près ressortissants. Alors, je dis tout de suite que ces chiffres, il faut toujours les manier avec précaution, parce qu'il n'est pas certain que tout le monde compte de la même façon. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, c'est un petit peu difficile. Et je suis sûr qu'aux pasteurs qui sont présents, je leur demanderai combien il y a de gens dans votre église. Je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à donner la réponse juste. Ils seraient forcément un tout petit peu approximatifs. Tellement approximatifs, je me dégage de la réalité locale maintenant, que dans certaines façons de compter maintenant, on parle des personnes qui sont en lien avec la communauté, ce qui est extrêmement fluctuant, élastique, et puis être en lien, ça veut dire quoi ? La boulangère du coin à qui on dit toujours bonjour ou à qui on va acheter le pain pour la Sainte-Seine, c'est complexe. Alors, je rajoute un autre élément pour parler un peu de ce paysage, c'est que dans ce paysage, eh bien, vous avez, on parle de manière toujours un peu schématique, 50 dénominations protestantes évangéliques. Et ces 50 dénominations, donc qui représentent à peu près 400 000 personnes, voisinent environ 200 à 250 églises indépendantes. Donc des églises qui peuvent être de taille différente, quelquefois de grande taille, et qui ne sont pas affiliées à une confession particulière, à une dénomination particulière. Et en plus de cela, ou rajouté à cela, on a deux, trois, voire quatre organismes qui ont vocation ou prétention à représenter tout ce petit monde. Alors je vais les mentionner. Et puis, je déroulerai un ou deux fils de cela. Alors, le premier organisme qui, d'une manière ou d'une autre, a vocation à représenter le protestantisme, tout le monde le connaît, c'est la Fédération protestante de France. Et la Fédération protestante de France, bon, ce serait long de tout dire, mais il faut juste rappeler qu'elle a été créée en 1905 pour gérer le rapport des églises protestante avec l'État, avec, comme vous le savez, la mise en place de ces lois de séparation de l'Église et de l'État. Il faut juste aussi se souvenir qu'à l'époque, le paysage protestant en France était quand même très différent de celui d'aujourd'hui, que certaines dénominations qui existent aujourd'hui n'existait pas à ce moment-là, que les contours théologiques n'étaient pas forcément exactement non plus les mêmes. Voilà. Donc, la Fédération protestante de France, qui se caractérise entre autres par l'absence de confession de foi et par une charte qui lie ses membres et qui leur donne des directives pour pouvoir vivre ensemble. Dans la Fédération protestante de France, dès l'origine et au fil des années, plusieurs évangéliques, plusieurs communautés, plusieurs dénominations évangéliques en sont rentrées. Je rappelle juste pour mémoire qu'à l'origine, les églises évangéliques libres, par exemple, étaient membres fondatrices, comme les églises méthodistes, sauf erreur de ma part, de la Fédération protestante de France, et puis qu'après, elles en sont sorties, puis qu'après, certaines, je pense aux églises libres, ils sont entrées. Les baptistes, ils sont rentrés, pas en 1905, mais un peu plus tard, et ils sont toujours restés. Voilà, donc il y a toujours eu des évangéliques dans la Fédération protestante, mais il y a eu dans les années 60 un clash qui a fait que beaucoup d'évangéliques présents dans la Fédération protestante en sont ressortis. Je reste encore schématique. Si on disait les choses avec beaucoup de finesse, peut-être qu'il faudrait le dire de manière différente, mais bon, le temps étant ce qu'il est, je vais au but. Donc, grosso modo, les raisons qui ont fait que certains en sont sortis étaient... reproches adressés à la Fédération protestante sur trois domaines. L'un qui était au domaine théologique, donc le libéralisme théologique. L'autre qui était pour des options politiques jugées par certains non conformes à l'Évangile. Et le troisième style de raison avait à voir avec toutes les questions de type moral. On dit éthique maintenant, mais voilà. Donc ça a amené... un nombre important d'évangéliques à sortir de là. Et ces évangéliques ont créé la fédération, enfin une bonne partie en tout cas, ont créé la Fédération évangélique de France, qui s'est justement créée en se positionnant contre la Fédération protestante de France. C'était très clair, c'était très net, c'était dans ses textes, et pour ceux qui les ont eu entre les mains, jusqu'à ces dernières années, enfin maintenant ils ont modifié leurs textes, on y reviendra, mais c'était une digue élevée contre un athéisme militant, je crois, etc. etc. Bon, voilà. Donc c'était quelque chose d'extrêmement offensif ou défensif, enfin vous le dites comme vous le voulez, mais qui avait comme objectif, face à un climat qui leur semblait extrêmement délétère, de maintenir très clairement, pour reprendre l'écriture, le bon dépôt de la foi. Et donc la Fédération évangélique est née, et à l'heure actuelle, elle représente à peu près 20% du monde évangélique. Alors pour que les choses soient comparables, la Fédération protestante, en fait, elle représente à l'heure actuelle 20 à 30% du monde évangélique. Mais il faut tout de suite rajouter que à l'heure actuelle, enfin pour le comparer, on a 70 à 80% d'évangéliques qui ne sont représentés par personne et qui ne sont ni à la Fédération protestante de France ni à la Fédération évangélique de France. Alors le troisième organisme que je n'ai pas évoqué, et j'aurais dû commencer par lui parce que c'est le plus ancien, c'est l'Alliance évangélique française. 1846 à Londres, première semaine de prière en 1847, et depuis l'Alliance évangélique s'est développée et elle est présente dans 133 pays à peu près dans le monde entier, aussi bien au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest. Alors un mot pour expliquer l'Alliance évangélique globale et puis pour expliquer la situation française par rapport à l'Alliance évangélique. En fait, l'Alliance évangélique, au départ, est née comme une sorte de... qu'est-ce qu'il faudrait dire ? De fraternité entre les individus, membres de diverses dénominations. Elle n'avait pas pour vocation de créer une superstructure, mais elle voulait plutôt établir des liens entre les chrétiens évangéliques présents dans toutes les dénominations. Et c'est comme cela que l'Alliance évangélique s'est développée jusque dans les années 50-55. Et puis dans ces années-là, les évangéliques essentiellement du sud, l'hémisphère sud, hein, ont dit « oui, mais ce truc, ça ne marche pas pour nous ». Nous, il nous faut avoir des... C'est les églises qu'il faut mettre ensemble. Hein. Il faut avoir des organes qui rassemblent toutes les églises, qui puissent être les interfaces avec les pouvoirs publics, avec les autres, etc. Et donc, l'Alliance évangélique a changé ses statuts et a donné la possibilité aux diverses alliances évangéliques de faire adhérer non seulement des individus, mais aussi des églises locales, mais aussi des dénominations et aussi des œuvres. Et c'est ce qui s'est fait au fil des années à partir de là, dans quasiment tous les pays du monde. À deux ou trois exceptions près, ou une ou deux exceptions près, et là-dedans, vous avez tout de suite compris que, comme d'habitude, nous nous sommes distingués. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi on s'est distingués. Il y a plusieurs raisons. Mais d'abord parce que il y avait, dans les années 50 et quelques, des liens extrêmement étroits entre l'Alliance évangélique et la Fédération protestante de France. Des liens étroits parce que vous aviez des gens qui étaient à la fois à l'un et à l'autre dans les bureaux respectifs ou dans les conseils respectifs, parce que aussi, à ce moment-là, en tout cas, les différents théologiques n'étaient pas aussi vivaces qu'ils ont pu l'être après, et que, par je ne sais trop quel procédé, eh bien, la cohabitation se passait très très bien. Et puis vous vous souvenez que je vous ai dit que la Fédération évangélique est née suite à un clash à cause justement de raisons que je ne rappelle plus, mais notamment d'options théologiques. Et c'est là que, alors je le dis moi en tant que secrétaire général de l'Alliance évangélique, hein, et vous pouvez me citer, mais c'est là que je crois que l'Alliance évangélique à ce moment-là a loupé le coche, parce qu'elle aurait pu, à ce moment-là, passer à ce que les autres alliances évangéliques commençaient déjà à vivre, et donc accueillir en son sein des dénominations évangéliques. Elle ne l'a pas fait, parce que les liens que j'ai évoqués étaient encore très, très présents, parce qu'à l'époque, sauf erreur de ma part, le secrétaire général de l'Alliance évangélique, sauf erreur de ma part, était pasteur de l'Église réformée, et qu'à ce moment-là, on lui aurait demandé de faire un grand écart, malgré ses convictions évangéliques, qui étaient quand même, de l'ordre du grand écart, vous savez ce que ça fait si on n'est pas habitué, hein, bonjour les tendons, et puis parce que aussi, le président de l'Alliance évangélique, à un moment, était aussi vice-président de la Fédération protestante de France. Mettez là-dedans, parce que la grande histoire, ou l'histoire de l'Église, plus exactement, s'écrit aussi avec la petite histoire des hommes, telle ou telle petite brouille entre personnes qui étaient bien évangéliques, mais pas forcément du même camp, ça a fait que le monde évangélique qui aurait pu se rassembler à ce moment-là s'est séparé à peu près, enfin s'est séparé en deux blocs, la Fédération évangélique de France et l'Alliance évangélique. L'Alliance restant encore à ce moment-là et jusqu'à ces dernières années, essentiellement axée vers la prière et la mise en place d'actions communes, l'adhésion dans les groupes locaux de plutôt d'individus et en essayant de favoriser la collaboration entre les diverses composantes du protestantisme, mais sur une base claire, qui est une déclaration de foi que vous devez tous connaître, et j'espère à laquelle vous adhérez. Donc, voilà à peu près pour dire la situation. Alors, j'amène maintenant deux petites informations. L'une, c'est que ces deux blocs, vous suivez, ça va ? Ces deux blocs qui se développent et qui commencent chacun à faire leur petite vie vont à un moment devenir antagonistes. Et là aussi, on va être très très rapide, mais on va être d'autant plus rapide que ce que je vais vous évoquer n'est réellement pas à la gloire de Dieu. Mais il arrive une époque où ces gens de ces deux comités, qui se connaissent par ailleurs, hein, vont, et ce n'est pas une manière de parler, quand ils vont se croiser, vont pour certains changer de trottoir, ou vont joyeusement s'anathémiser, parce qu'il y a eu une sombre histoire, et peu importe laquelle maintenant, et qui fait que l'un n'a pas fait ce que l'autre aurait pensé qu'il devrait faire, et tout ça a été monté en, comment on dit, en épingle, et ça a fait du dégât. Et donc, jusqu'à il y a, on va dire, une quinzaine d'années, à peu près, une vingtaine d'années à peu près, eh bien, la Fédération évangélique et l'Alliance évangélique se regardaient un petit peu comme... j'ose pas dire comme chien et chat, parce que moi j'ai un chien et un chat, et ils s'entendent très bien. Mais enfin, selon l'expression fausse, comme chien et chat. Ce qui a amené les uns à dire que les autres étaient d'une étroitesse pas possible, et les autres à dire que les autres étaient d'une largeur pas possible, et qu'ils étaient des libéraux, et ceci et cela. Enfin voilà. Dans les années 99, un peu avant, oui, dans les années 97-98. Donc je suis devenu secrétaire général de l'Alliance évangélique depuis le mois de septembre 95. J'ai commencé un peu à me frotter à cette réalité que j'ignorais complètement, c'est-à-dire la qualité des relations entre les autres évangéliques. Et je participe à l'Assemblée générale de l'Alliance évangélique mondiale à Vancouver. Et quand je reviens, je dis au conseil, écoutez, alors de manière là aussi un peu rapide, je dis, écoutez, moi ce que j'ai vu, peut-être que je me suis trompé, mais c'est que généralement, dans les autres pays, les évangéliques sont ensemble. Et que d'une certaine façon, l'Alliance évangélique, dans les autres pays, c'est ce que veut faire la FEF. Parce que la FEF a développé, depuis sa création, tout un travail de représentation, notamment vis-à-vis des autorités, et puis d'autres commissions, etc. Et voilà. Et en discutant avec le Conseil, nous décidons de dire, mais il faut absolument qu'on aille dans ce sens-là. Oui, mais comment faire avec les cartes telles qu'elles sont distribuées? Et nous décidons, dans un premier temps, de rencontrer la FEF. Nous la rencontrons et nous soldons nos affaires, nos contentieux. Merci, c'est le mot que je cherchais. Nous soldons nos contentieux. Effectivement, c'est un peu plus facile parce que certaines personnes qui étaient directement impliquées ne sont plus là, mais d'autres sont très présents toujours pour rappeler l'épaisseur du dossier. Mais je crois réellement que Dieu nous aide les uns et les autres à nous écouter et à dire ensemble, effectivement, ce qui s'est passé n'est pas la gloire de Dieu. Effectivement, ça n'aurait jamais dû arriver. Effectivement, il aurait fallu s'y prendre autrement, mais bon, on fait quoi maintenant? Parce que tout ça est fait, et en plus, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Donc, nous décidons, pour parler comme les Indiens, d'enterrer la hache de guerre, de demander aux acteurs encore présents de faire des démarches, mais sous leur propre responsabilité, on ne va surtout pas se mettre entre, et d'avancer d'un seul pas pour. Et je revois encore ce moment où, à l'issue de cette rencontre où on s'est réconcilié, on dit comme ça, et alors, et si on appelait l'ensemble des représentants des évangéliques à se retrouver ensemble? D'accord. Et donc pour inviter l'ensemble des évangéliques à se retrouver. Alors pourquoi? Eh bien parce que justement, c'est une des raisons d'être qui va amener la création du CNED, parce qu'on a conscience que le monde évangélique est éparpillé, vous vous souvenez des chiffres, hein, 400 000, 50 dénominations, etc. Que finalement ça ne sert à rien, chacun d'essayer de tirer dans son coin, et qu'il y a des enjeux maintenant important auquel il faut qu'on réponde, et que si on veut y répondre, il faut qu'on soit ensemble. Et ces enjeux sont effectivement en termes de représentation, en termes de défense de l'évangélisme, mais aussi en termes de... Alors je parle peut-être d'une manière pas très ecclésial, mais vous allez le traduire, de promotion de l'Évangile. Nous devons travailler ensemble au progrès de l'Évangile dans notre pays, il faut s'y mettre ensemble. Donc, cette première rencontre a lieu en 2001, sauf erreur de ma part, le 6 janvier 2001, dans la chapelle de l'Institut biblique de Nogent, que certains connaissent. Et peut-être que dans une cinquantaine d'années, il y aura une plaque, comme il y en a déjà une pour dire qu'il y a eu Jules Marcel Nicole, hein, qui dira « Ici, les ou des représentants du monde évangélique se sont levés pour publiquement se demander pardon. » Parce que je vais vous raconter, je vais faire dire une demi-heure, hein, parce que je vais vous raconter cette première rencontre. Parce qu'il faut que vous l'entendiez. Parce qu'il faut que vous sachiez que c'est possible. Cette rencontre, au dire des plus anciens, n'aurait jamais pu avoir lieu quelques années avant. Quelques années avant, ces personnes qui étaient là ne seraient pas restées un quart d'heure ensemble. Et peut-être même qu'elles ne seraient même pas venues. Et là, on est resté toute une journée. Alors, avec beaucoup de sagesse ou d'inconscience, on avait bien préparé les choses. Sauf qu'on n'avait pas prévu ce que je vais vous raconter. La première partie de la réunion s'est passée où on a présenté avec des belles diapositives le développement des églises évangéliques. Tout le monde était content, ça grandit, chacun grandit à sa vitesse, c'est bien. On n'a pas créé de conflit. Le second module, c'était l'état de la théologie évangélique en France. Bon, dans certains pays, certains évangéliques lâchent un petit peu sur ceci ou cela, mais finalement, en France, c'est pas si mal que ça.
Bien.
Le troisième temps, c'était les échanges. Et là, chacun a commencé, dans un ordre qui était tout à fait aléatoire, à prendre la parole. Et j'animais ce moment-là et j'avais de drôles sentiments en moi parce que j'avais l'impression que, en fait, ce que les divers intervenants exprimaient, c'était plutôt en termes de fermeture qu'en termes d'ouverture. Si vous voulez, dit de manière un peu, pas imagée, mais caricaturale aussi, nous, on n'est pas comme. Voilà, donc, bien bétonné. Et je me demandais où on allait. Et ce qu'on n'avait pas prévu est arrivé. À savoir que le président de la Fédération évangélique, qui avait déjà parlé, alors vu ce que je viens de dire, vous pouvez imaginer ce que j'avais pensé quand il avait commencé à parler. Le président de la Fédération évangélique s'est relevé et a dit à peu près en substance, écoutez, moi je voudrais maintenant demander pardon au monde pentecôtiste pour la manière dont on les a considérés. Vous connaissez l'expression, un ange passe. Hein ? Moi je me suis demandé ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que je dis à tout le monde, à genoux, on chante à toi la gloire et puis on rentre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Moi, j'ai laissé filer. Je dis, on continue. Voilà. Ça a été dit, ça a été entendu. Et donc, la réunion s'est terminée et on s'est donné rendez-vous 6 mois après pour une journée de jeûne et de prière au même endroit. Et 6 mois après, et bien, tout ce petit monde était là à nouveau. Et dans le cadre de cette journée, vous avez eu le secrétaire de la Convention nationale des Assemblées de Dieu. Alors, ce n'est pas le pape. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais ça y ressemble. Hein, le secrétaire national de la Convention, ou le secrétaire de la Convention nationale, c'est pas n'importe qui. Et qui s'est levé, qui a dit, écoutez, voilà, on a entendu, on en a parlé entre nous, et on a jugé que la situation n'était pas noire et blanche, et que nous aussi, on avait à demander pardon, etc., etc. Et il s'est assis, et quelques instants après, vous avez eu le président de la Fédération des Églises du plein Évangile qui s'est levé et qui a dit, écoutez, nous, on était en bureau hier, on pensait à aujourd'hui, on pensait à ce qui s'est passé la fois dernière, et on s'est dit, mais nous aussi, on doit demander pardon pour notre arrogance. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, nous nous appelons Église du plein Évangile, ça ne veut pas dire que nous avons le plein Évangile, ça veut dire que nous voulons le vivre. Vous voyez ce qui est en train de se passer là. Et à partir de ce moment-là, donc je vais aller très très vite, puis après il y aura plein de questions, mais à partir de ce moment-là, eh bien, c'est créé entre ces divers responsables un climat, une écoute mutuelle, une fraternité, une communion, au point que, par l'indiscrétion de l'un d'eux, Mais enfin, vous allez bien comprendre pourquoi je ne vais pas citer de qui je parle, mais un de ses représentants qui m'a dit une fois, mais tu sais, au bout de 3 ou 4 rencontres, X, donc X et son collègue, m'a dit, en parlant d'eux, des autres, mais ce sont des frères, ce sont des chrétiens. Vous imaginez le cheminement qui se passe des hommes, j'allais dire des hommes et des femmes, mais là c'est quasiment que des hommes, donc peut-être que les femmes avaient, elles, déjà fait ce chemin, mais des hommes qui ont déjà derrière eux un long ministère et qui, comme Élie, découvrent qu'il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Vous voyez le texte auquel je fais allusion, et qui disent, mais finalement j'ai des frères et des sœurs dans d'autres dénominations. Et donc pendant ces quasiment 10 dernières années, nous avons cheminé ensemble, nous avons appris un peu mieux à nous connaître, et s'est imposé progressivement à notre esprit l'idée qu'il fallait lutter contre l'éparpillement du monde évangélique. Et qu'une des manières de lutter contre l'éparpillement du monde évangélique, c'était de ne plus avoir la FEF ou l'Alliance évangélique, la Fédération protestante, elle, on n'y touche pas, hein, ça ne nous appartient pas, mais qu'il fallait essayer, et puis le CNEF qu'on venait de mettre en place, mais qu'il fallait faire quelque chose. Alors que faire? Alors on a étudié plusieurs hypothèses, on a consulté, on a réfléchi, on a prié, et puis finalement, on a proposé de dire, écoutez, voilà, si le CNEF est d'accord de reprendre à son compte la vision, les idées, l'esprit, les objectifs de l'Alliance évangélique, alors l'Alliance évangélique, alors on l'a dit de manière un peu brutale, est prête à disparaître, à se fondre dans le CNEF, à muter. Et à ce moment-là, je vais un peu rapidement, la FEF, après coup, a dit, ben nous allons aussi transférer au CNEF tout ce qui est de l'ordre des services que nous rendons pour l'ensemble du monde évangélique, l'annuaire, les représentations auprès des ministères, etc., en nous recentrant uniquement sur notre rôle de famille spirituelle, d'évangélique non pentecôtisante, non charismatique, pour le dire de manière alors un peu négative, mais on cherche une formule positive, si vous en trouvez une, vous nous le direz. Hein. Voilà. Et donc, on est bien d'accord de travailler pour mettre en avant maintenant un organisme fêtier qui sera le Conseil national des évangéliques de France et qui aura non pas une mais 4 missions. Alors ce qui est extrêmement curieux, peut-être que c'est une erreur de notre part, peut-être aussi que c'est que les gens entendent que ce qu'ils veulent entendre, c'est que ce que beaucoup, et l'article lu tout à l'heure en témoigne, ont retenu, c'est la mission de représentation. C'est une des 4 missions du CNEF. Et pour essayer de corriger cette focalisation, et je vais vous lire juste le texte qui, dans les projets de statut du CNEF, précise l'objet, précise donc quelles sont les missions du CNEF, les objets du CNEF, mais on ne le met plus en premier, parce qu'à notre sens, oui, c'est un objectif, mais s'il n'en fallait garder qu'un, ce serait celui de travailler autant que possible ensemble au progrès de l'Évangile dans notre pays. C'est ça le plus important. Alors, la représentation, pourquoi pas, mais c'est ça. Alors, je vous lis, parce qu'autant que vous ayez le texte brillant sous les yeux, l'objet du CNEF, tel que les statuts à l'article 2 le définissent, a pour objet, dans l'esprit de sa charte de fondation et des principes déontologiques cités en préambule, de mettre en œuvre 4 missions principales. Concertation. Développer la concertation entre ses membres dans le but de favoriser la connaissance mutuelle, la réflexion sur des problématiques transversales, la recherche d'orientation commune, voire l'optimisation des ressources. Information. Promouvoir les valeurs et la théologie du protestantisme évangélique français. Entreprendre des actions de communication destinées à faire connaître l'identité, les projets, les droits, les besoins des églises et des œuvres protestantes évangéliques de France. Troisièmement, représentation. Représenter et défendre les intérêts et positions de ses membres sur le plan national et international devant les autorités politiques, administratives et notamment les organismes officiels chargés de la lutte contre les discriminations judiciaires, civiles ou religieuses. Quatrièmement, animation de projets, mettre en œuvre des projets qui contribuent au progrès de l'annonce de l'Évangile. Voilà les quatre objets que le CNEF s'est donné. Je prends deux minutes montre en main pour amener deux précisions maintenant concernant la façon dont le CNEF fonctionnera, et après je suggère que je m'arrête. Pour dire que les membres du dire quels sont les membres du CNEF, qui sont les membres du CNEF, et pour dire rapidement l'organisation. Alors les membres du CNEF sont les unions d'églises et les œuvres, unions et œuvres protestantes évangéliques. Voilà qui sera, quels seront les membres du CNEF. Ils le seront, enfin, elles, les unions et les membres, et les œuvres, le seront si elles sont en accord avec un certain nombre de conditions, notamment une déclaration de foi, qui est celle de l'Alliance évangélique, et puis aussi la charte de fondation, des principes de déontologie, et aussi si elles se reconnaissent dans la déclaration de Lausanne et le manifeste de Mani qui a été évoqué. Donc ça, c'est un point important. Après, quant à l'organisation interne, ce sera comme n'importe quelle association, avec fort certainement deux directeurs chargés chacun de chapeauter deux missions. Donc il y a quatre missions, donc deux fois deux, hein, ça va, vous suivez, deux directeurs, et un comité représentatif. C'est l'équivalent d'un conseil d'administration qui est justement représentatif des diverses tendances présentes dans le CNEF. Alors, ces diverses tendances, on les appelle des pôles. Il y en a cinq, je termine par là. Alors, ces pôles sont pas forcément complètement satisfaisants, mais c'est la quadrature du cercle. Et là encore, si vous avez une idée géniale, mais il faut se dépêcher, ou alors attendre dans 10 ans quand on révisera les choses. Mais en fait, les cinq pôles sont les suivants. Le premier pôle, c'est les unions évangéliques membres de la Fédération protestante de France. Par exemple, l'église baptiste, baptiste de la Fédération baptiste. Hein. Bon, voilà, ça c'est le premier pôle. Le second pôle, ce sont, on va dire, les églises tendance FEF, ou assimilés. Le troisième pôle, ce sont, enfin c'est à lui tout seul, les assemblées de Dieu. Le quatrième pôle, ce sont les églises dites pentecôtistes charismatiques. Et le cinquième pôle, ce sont les œuvres évangéliques. La CLC, la Ligue, par exemple. Donc voilà ces cinq pôles. Chacun de ces pôles élit trois représentants. Ces trois représentants sont donc au comité représentatif. Et de ce comité représentatif émerge un bureau. Je rajoute juste que vous avez combien de pôles, juste pour voir si vous suivez. Cinq. Combien de représentants par pôle? Ça fait trois. Il y a donc 5 fois 3, 15, et pourtant, dans le comité représentatif, il y aura 18 personnes. Parce que à ces 15 personnes se rajouteront en invité permanent les deux directeurs, et se rajoutera de façon permanente aussi, en tant que membre, lui, du comité représentatif, un représentant des institutions de formation théologique. Alors, ça mérite quand même... Mais non, je vous laisserai poser la question pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà à peu près l'organisation du CNEF. Mais si une question revient, peut-être qu'on fera... Non, j'ai rêvé, j'avais cru qu'il y avait un tableau. Non, on aurait pu faire un graphique. Non, mais il n'y en a pas. Mais bon, je rajouterai deux, trois éléments. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai parlé une demi-heure pile, hein, à la mode marseillaise ou je sais pas quoi.
Voilà, ouais, je pense qu'il y a des questions, certainement des remarques qui peuvent brûler les lèvres des uns et des autres. Alors, sans plus attendre, je vous laisse la parole.
évangélique dans les lettres.
Oui.
C'est seulement la version évangélique française.
Oui. Ah oui. Oui, alors. Alors, merci de m'amener à préciser ce point extrêmement important. Alors, d'ailleurs, l'expression autodissolution n'est pas forcément tout à fait... nous non plus. En fait, ce qui va se passer, si on veut être très administratif, c'est que fort probablement, mais si je dis fort probablement, c'est parce qu'il faut qu'on le décide officiellement, hein, mais la voie vers laquelle on va et qui est préconisée, c'est que quand le CNEF sera né, il procédera à une fusion-absorption de l'Alliance évangélique. Ça, c'est une première chose. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'il va intégrer en son sein l'Alliance évangélique, qui va se dissoudre à l'intérieur. Et pourquoi c'est possible? C'est possible parce que, justement, le CNEF reprend... le CNEF devient ce que l'Alliance évangélique aurait pu ou aurait dû être. Mais il y a un enrichissement, parce que maintenant, dans le CNEF, en France, il y a les unions d'églises, alors qu'elles n'y étaient pas présentes. Et que là, maintenant, le CNEF devient, ressemble de plus en plus et semblable à bon nombre d'autres alliances évangéliques dans le monde entier. Et je rajoute que le CNEF va devenir membre de l'Alliance évangélique européenne et de l'Alliance évangélique mondiale. Donc, pour les raisons que j'ai un petit peu, enfin, vous pouvez comprendre par rapport à l'histoire que j'ai essayé de rappeler très, très, très rapidement, c'était difficile pour certains de dire, eh bien, on va s'appeler Alliance évangélique. Comme pour certains, ça aurait été difficile de dire, eh bien, on va s'appeler Fédération évangélique de France. Par contre, appelons-nous CNEF, ben voilà, pourquoi pas. Mais devient membre de l'Alliance évangélique européenne et de l'Alliance évangélique mondiale. Donc, par exemple, la semaine de prière de l'Alliance évangélique continuera d'exister. Et ce sera la semaine de prière de l'Alliance évangélique, parce que c'est justement global et mondial, par exemple.
D'autres remarques, questions?
Je comprends que la Fédération évangélique est évoluée pour devenir le CNEF, mais je ne comprends pas que l'Alliance évangélique disparaisse du CNEF. Parce que, à mes yeux en tout cas, j'espère que ce n'est pas que par nostalgie, l'Alliance évangélique avait une vocation qu'on ne retrouve pas dans le CNEF. C'est la vocation d'un mouvement, la vocation d'un rassemblement qui n'est pas une dénomination, qui n'est pas une structure militante dans le sens partisan un petit peu. Ça veut dire que, par exemple, le pasteur de l'Église réformée ou un membre de l'Église réformée de France qui adhère de cœur à la déclaration de foi de l'Alliance évangélique, il ne viendra pas au CNEF. Il vient à l'Alliance évangélique. Et donc, à mes yeux, la force de l'Alliance évangélique, c'était de n'avoir qu'une déclaration de foi et rien d'autre. Et ça, c'est propre à la piété évangélique, justement. C'est-à-dire un fondement minimal mais suffisant qui permet de faire beaucoup de choses ensemble sans chercher à régler tous les problèmes qui peuvent se trouver par ailleurs. Et ça, on le perd.
Alors,
moi, ce que tu as dit me fait apprécier la venue du CNEF. Donc c'est un problème par rapport à la fédération évangélique. Bravo. Mais je ne comprends pas pourquoi il faut perdre l'Alliance évangélique pour que le CNEF advienne.
Bon, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre, et puis si ce n'est pas satisfaisant, il pourra me le dire. Hein. Premièrement, vous avez bien compris, et peut-être que, autant que je le lise dans nos textes, hein, mais le CNEF reprend à son compte, parmi les missions de la FEF, celle qui contribue au bien commun des évangéliques, ainsi que la vision et les engagements de l'AEF. En d'autres termes, le CNEF reprend tout ce qui fait l'AEF.
Mais avec une structure lourde, un peu comme la cuirasse de Sayoun, tu vois. Alors que l'AEF, c'était les 5 pièces.
Bon. Non, alors, c'est évidemment, présenté comme ça, on ne peut que te donner raison. Mais je pense que là, c'est un usage abusif du texte biblique qui ne t'honore pas et auquel tu ne nous avais point accoutumé. virgule. Non, point. Non, alors sérieusement. Premièrement, je redis jusqu'au bout, et puis après tu reviens si tu veux. Premièrement, donc, le CNEF reprend à son compte tout ce qui fait l'Alliance évangélique. Tout. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, avec cette opération, on simplifie le paysage. Parce qu'il n'y a plus l'Alliance d'un côté, sur le devant, il n'y a plus la FEF sur le devant, il y a le CNEF. Et cette volonté de simplification, elle est présente dans la création du CNEF, parce que justement, l'éparpillement, c'est quelque chose qui nous dessert énormément dans notre témoignage, hein, et dans nos actions. Alors on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans des zones comme les nôtres ici, où on est relativement bien implanté, et sinon majoritaire, en tout cas, on fait partie du paysage. Hein, mais dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Donc ça, c'est un autre élément. Alors, après, la question, oui, tu l'as pas employé comme ça, mais usine à gaz, hein, version moderne de l'armure de Saül. Bien. C'est un risque, mais il nous semble qu'en fait, c'est pas celui-là que nous courons. Ce que nous courons plutôt comme risque, c'est d'être tellement éparpillé qu'on n'arrive pas à faire certaines choses qu'ensemble on pourrait faire. Et qu'il faut aller plutôt dans ce sens-là pour pouvoir apporter au monde, dans le monde dans lequel nous sommes, pardon, apporter une parole claire, un témoignage affirmé, prendre des positions quand on le peut, quand on a des choses à dire sur telle ou telle chose, et le faire de manière un petit peu massive, en quelque sorte. Alors, après, la question de celles et de ceux qui sont dans les églises non évangéliques, en tout cas dénominationnellement parlant, et quelle place ils vont avoir. Dans la construction du CNEF, il y a des CNEF, ça je ne l'ai pas du tout évoqué, départementaux et locaux. Et pour nous, c'est clair qu'au niveau local, quand il y a des choses qui marchent bien aujourd'hui, il n'y a aucune raison de les casser. Deuxièmement, c'est clair que si, pasteur ou pas pasteur, membre d'une église non évangélique, je veux dire avec l'étiquette non évangélique, s'il veut participer à la vie locale du CNEF, rien ne l'empêche. Ce sera de la volonté des gens qui vivront le CNEF localement, qui ne s'appellera pas CNEF d'ailleurs, hein. Ça s'appellera peut-être CLÉ ou quelque chose comme ça, hein. Parce que Conseil National au niveau local, ça veut rien dire. Hein. Voilà. Voilà. Donc l'appellation sera probablement...
Parce que le CNEF, c'est les 18 personnes que tu as mentionnées.
Voilà, voilà. Le CNEF, c'est l'organisme global, et puis après, il y a les déclinaisons locales et départementales. Donc au niveau local... la collaboration avec pourra se faire avec toutes les personnes qui vont se retrouver dans les objectifs même poursuivis localement par les évangéliques. Donc il n'y a pas de problème réel à ce que localement des non-évangéliques, vous comprenez ce que je veux dire par non-évangéliques, hein, puissent participer à la vie du CNEF. On ne verrouille pas. Alors après, si certains disent « Ah oui, mais parce que ça a changé de nom, on ne veut plus y être », ça c'est un autre problème. Hein. Mais à mon avis, c'est un argument qui ne tient pas. Voilà ce que je peux dire.
Est-ce que le statut de membre associé s'approcherait aussi un peu pour peut-être cette fois une union, une proximité avec le CNEF sans adhérer
localement ou nationalement ?
Nationalement.
Alors nationalement... Après beaucoup de discussions et sous la pression de quelques unions d'églises, on a accepté de mettre en place un statut d'union associée, pas de membre associé. Ce statut d'union associée, c'est un statut pour des églises évangéliques, membres de la Fédération protestante, présents au CNEF depuis 2001 jusqu'à 2009 et qui ne veulent pas devenir membres du CNEF, mais qui en même temps disent « mais on est quand même évangélique » et en fait qui veulent... qui veulent se fâcher avec personne. En fait, qui, d'une certaine façon, disent « mais on soutient la démarche du CNEF » et en même temps, on pense qu'on n'est pas capable d'assumer nos responsabilités pleinement, c'est leur discours en tout cas, au sein du CNEF, à cause de nos autres engagements. Mais localement, la question se déclinera de manière complètement différente. On est en relation avec des tas de gens localement. Demain, il n'y a pas de raison que ça change. Beaucoup de souplesse au niveau local. Par contre, un des objectifs, c'est qu'effectivement, dans chaque département, il y ait une délégation CNEF. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain. À certains endroits, ça sera très facile, dans d'autres plus compliqués. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Mais voilà, des gens qui pourraient être identifiés comme étant les interfaces des évangéliques.
Concernant les rapports avec la Fédération protestante de France, Florian Rochat, responsable donc, de la coordination évangélique au sein de la Fédération, disait dans un article de Réforme, une fois de plus, « L'idée d'une plateforme a convaincu la plupart d'entre nous. En revanche, l'institutionnalisation du CNEF est apparue plus problématique. » Et Jean Wolfe, le luthérien, donc, lui disait, qu'on le veuille ou non, de l'extérieur, le futur CNEF apparaîtra comme une fédération protestante bis. Je m'interroge sur l'attitude des autorités publiques devant ces deux organismes. Alors ma question, c'est quels sont déjà les rapports du CNEF, du Conseil national, avec les instances de la Fédération protestante de France, puisque je crois que vous êtes en dialogue, que vous devez vous revoir en juin, ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas le calendrier exactement, mais bon, en tout cas, vous êtes en dialogue. Et quelle est la représentativité du CNEF vis-à-vis de l'État? Quels sont les contacts avec l'État? Comment l'État considère le ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, considère la création du CNEF?
D'accord. Donc il y a à la fois le positionnement du CNEF par rapport à l'État, donc ça c'est en termes de représentativité, et puis nos relations avec la Fédération protestante de France. Je ne peux m'empêcher de constater qu'en quelques mois, peut-être même quelques semaines, le discours a singulièrement évolué, d'une interview où le président de la fédération, à qui on demandait mais qu'est-ce qu'il pensait du CNEF, disait mais en substance, si vous pensez que ça a affaire à la fédération protestante, et puis quelques mois après, à l'Assemblée générale, en mars dernier, de la fédération, où un vœu a été émis par la fédération de s'intéresser fortement au CNEF. Donc il y a une prise en compte, parce que voilà, le CNEF est en train d'exister, une prise en compte de cette réalité-là, avec effectivement de la part de la fédération protestante, la question mais est-ce que vraiment vous allez vous institutionnaliser? Et la réponse a été oui, nous allons nous institutionnaliser, bien sûr. Pourquoi on s'institutionnalise? Mais parce que la majeure partie des acteurs présents au CNEF depuis le début ont décidé maintenant de le faire. Ce n'est pas la volonté de l'Alliance évangélique, ce n'est pas la volonté de la Fédération évangélique de France, c'est la volonté de l'ensemble de ces dénominations. Et même pour être honnête, enfin, je suis honnête jusqu'à présent, mais c'est une manière de parler, donc, mais pour être honnête, c'est-à-dire pour rajouter quelque chose, sinon sur le mode de la confidence, mais en tout cas pour lever un peu le coin des délibérations, la Fédération évangélique de France n'était pas chaude au départ pour l'institutionnalisation, et l'Alliance évangélique ne l'était guère plus non plus. Mais nous sommes finalement aperçus au fil du temps en cheminant que c'était ça. Sinon, on était alors pour le coup en train de faire une usine à gaz qui servait à rien. Donc, avant même la fameuse Assemblée générale que j'ai évoquée en mars dernier de la Fédération protestante, l'Alliance évangélique avait régulièrement des rencontres avec la Fédération protestante et on avait parlé du projet du CNEF. On en avait déjà parlé avec le président Stewart. Donc je ne sais pas si vous voyez, Jacques Stewart, ça remonte à quelques décennies. Et chaque fois, on en a parlé avec les autres présidents. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que suite à ce vœu, eh bien, il y a mis en place, avec un agenda, si vous entendez agenda dans le sens de un programme de travail, qui est mis en place entre le CNEF et la Fédération protestante. Il y a eu une rencontre en juin, effectivement, il y en avait eu une en début avril, et la prochaine sera au mois d'octobre. Donc voilà, vous avez des informations toutes fraîches. De quoi va-t-on parler dans la prochaine rencontre ? Eh bien, de nos textes respectifs, c'est-à-dire de nos, si j'ose dire, philosophies respectives. Parce qu'une des grandes différences qui existent entre la Fédération protestante et le CNEF, et la Fédération l'a bien perçue, c'est que la Fédération a une charte, alors que le CNEF a une déclaration de foi, une confession de foi. Et que ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence. Donc on va un petit peu parler de nos textes respectifs, et puis on verra bien. En tout cas, et ça vaut la peine que je vous le lise, et ce qui est une manière de répondre à ce message qui n'est pas subliminal, effectivement, et qui passe et qui est distillé ici, de dire « mais le garde réforme le dit, là, c'est ni plus ni moins qu'une deuxième fédération protestante. » Alors, on peut le nier, nous le nions, hein, parce que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'état d'esprit, et ça l'est d'autant moins que, dans notre identité, nous disons clairement qu'on se réclame de l'héritage des réformes protestantes et des mouvements de réveil qui l'ont suivi, premier point. Deuxièmement, dans notre mission du CNEF, nous... Alors, je ne retrouve plus la phrase, mais je vais vous la retrouver, qui dit que... Compte tenu des racines historiques communes et des défis posés à l'ensemble du protestantisme, le CNEF aura à cœur de contribuer à une concertation utile avec la Fédération protestante de France. En d'autres termes, il y a des chantiers communs, il y a des défis communs, et il serait complètement sot, pour ne pas dire autre chose, de ne pas travailler ensemble. Par contre, il y a d'autres éléments, il y a d'autres points sur lesquels nous pouvons avoir ou des positions différentes, ou des manières d'aborder les problèmes différentes. Et que, personnellement, je ne vois pas pourquoi les évangéliques ne pourraient pas aussi dire, à un moment ou à un autre, clairement, tel ou tel point de vue qu'ils ont. Voilà. Alors, la question de la représentativité. Par rapport à l'État. Par rapport à l'État. Et alors, merci de me le faire préciser, parce que ça m'amène juste à préciser que l'État, mais vous avez l'administration, puis vous avez tout le système politique. Puis vous avez les maires, les députés, les sénateurs, les journaux, les médias, etc. Enfin, ça fait plein de choses. Hein. Donc, il n'y a pas que aller à la garden party de l'Élysée en termes de représentativité. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous voyons représentativité avec juste le fait que pour telle ou telle cérémonie, on va inviter alors non seulement le président de la Fédération protestante, mais le CNEF, c'est pas ça la représentativité. Hein. La représentativité, c'est de pouvoir... C'est le poids, et c'est de pouvoir exprimer nos convictions, nos valeurs, nos points de vue, le cas échéant. À l'heure actuelle... Et je réponds un peu plus précisément. À l'heure actuelle, le ministère de l'Intérieur sait très bien que le CNEF se met en place. Il est au courant du CNEF. Il a vu le logo du CNEF, etc., etc. Voilà. Et il y a encore deux ou trois jours, parce que, rappelez-vous, la FEF a développé cet axe auprès du ministère de l'Intérieur et du bureau des cultes. Donc ils sont en lien direct. Et, il y a quelques jours, et donc maintenant c'est le CNEF, donc tout ça fonctionne bien. Donc était encore en train de donner telle information et de demander telle question, donc auprès de Clément Dietrich, mon homologue. Hein. Donc Le CNEF existe, qu'on le veuille ou non. Hein. Il existe plus tôt qu'on le voudrait, puisque normalement, officiellement, c'est le 15 juin 2010. Hein. Mais il existe plus tôt qu'on le voudrait. Alors si l'État, après, veut avoir deux personnes pour le protestantisme, avec le protestantisme d'un côté rue de Clichy et puis l'autre, ce sera lui qui le décidera. Hein. Ça dépend. Mais c'est clair que le CNEF va quand même, à un moment ou à un autre, dire « Nous sommes là, nous existons. » Mais il ne faut pas en faire un sujet de... En tout cas, pour nous, faut pas, on n'en fait pas un sujet de crispation.
On peut dire « pas contre, mais à côté d'eux ».
Exactement. « Pas contre, mais à côté d'eux voilà. ». Et quelquefois avec.
Moi, j'ai une question aussi... au sujet du mot évangélique. Pas de parole employée, et il y a des moments où ce mot résonne clairement, il y a des moments où on ne peut rien dire du tout.
Tout à fait.
André Gaudel a écrit un livre qui s'appelle Évangélique et libéral. Et là, quand nos collègues libéraux entendent qu'on s'appelle évangélique, ils lèvent les bras en l'air en disant nous aussi nous sommes évangéliques, mais du coup,
on ne sait plus qui est.
Ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on peut constater des évangéliques qui se mettent à douter sur des questions qui ne sont pas des questions de détail. Donc, sont évangéliques, en fait, ils ne le sont plus. Mais, voilà. Alors, ma question est un peu délicate et pointue, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dira si on ne comprend pas ce verset comme ça, on n'est pas évangélique. Bon, je ne parle pas de ça. Hein, je parle de doute sur des questions très profondes. Et ça m'amène à la question que je t'avais posée il y a quelques années. Là. Pourquoi a-t-on pu avoir l'impression que la déclaration de foi, qui, donc, à mes yeux, était le point de ralliement et la force de l'Alliance évangélique, pourquoi cette déclaration de foi est-elle comme mise en oubli dans la plaquette de l'Alliance évangélique chaque année, elle n'y est pas. Et donc, il semble qu'on désire mettre en avant des atouts plus à la mode, plus au goût du jour, plus consensuels, construire des ponts, etc. Mais construire des ponts, mais tout le monde peut construire des ponts. Et les progrès de l'évangile, même les libéraux veulent le progrès de l'évangile. Donc, simplement, ce n'est pas de l'évangile qu'il s'agit. Alors, pour moi, ma question là, c'est est-ce qu'on va assumer le fait d'avoir une déclaration de foi ?
Alors, effectivement, et à juste titre, Charles-Nicolas m'avait fait cette remarque, parce que dans la plaquette de présentation de l'Alliance, on n'avait pas mis... la déclaration de foi. Il y a d'autres choses qu'on n'avait pas mis non plus. Mais effectivement, on aurait pu penser et s'attendre à ce qu'elle y soit. Alors, elle est sur le site internet de l'Alliance, hein, ce qui est une pirouette. Hein, voilà. Et aujourd'hui, la communication, elle fonctionne aussi avec Internet. Mais moi, la seule chose que je peux dire, c'est que le fait qu'elle n'y ait pas été, et puis après, je vais parler du CNEF, parce que maintenant, c'est l'heure du CNEF, hein, mais qu'elle n'y ait pas été, ne correspondait nullement à une volonté de minimiser cette importance-là. Probablement que c'est une erreur ou qu'on n'a pas perçu dans la chose avec toute l'importance qu'elle y serait. Et moi, je peux dire quand même qu'on a eu dans tel ou tel endroit des problèmes justement à l'Alliance évangélique à cause de la déclaration de foi et qu'on maintient et qu'il n'y a pas de souci. Alors, dans la nouvelle Alliance, donc dans le CNEF, la déclaration de foi, elle est très présente. Et je voudrais rajouter quelque chose concernant l'organisation qui va vous montrer l'importance. Je reviens d'abord à l'objet, je ne sais pas si ça vous a frappé tout à l'heure, mais information, promouvoir les valeurs et la théologie du protestantisme évangélique français. Je ne sais pas comment vous déclinez ça, mais ça veut dire en clair, un des objectifs du CNEF, c'est de dire voilà ce que c'est qu'être évangélique. Alors il ne s'agit pas de faire un magistère et puis d'exclure forcément, mais en même temps de dire attendez, évangélique, c'est quand même un minimum. Et ce minimum, dans la charte de fondation, quand on parle de notre identité, on dit, par rapport donc aux membres du CNEF, ces membres partagent tous une même conviction évangélique fondamentale telle qu'elle est exprimée par la déclaration de foi de l'Alliance évangélique. On rajoute, ils peuvent avoir des sensibilités théologiques diverses sur des points jugés non séparateurs. Alors, quand on a fait la relecture de tous ces textes-là, avec les allées venues, quelqu'un avait mis, alors peut-être qu'il serait bon de lister les points jugés non séparateurs. Mais voilà, on s'est dit non, soyons sages, parce que ça va devenir des points séparateurs, justement. Hein. Mais il nous semble quand même que là, on a déjà l'ouverture que tu évoquais tout à l'heure, et en même temps, le cadre. Hein. Évangélique, c'est être large, mais pas extensible. Hein. Et pour certains, c'est être finalement très, très étroit. Donc ça, c'est un point qui me semble capital à mentionner. Et alors, dans notre organigramme, bon, les organigrammes, on n'y fait pas toujours attention, mais c'est ce qui permet de fonctionner, et puis on y met du politique dedans. Je veux dire par là qu'on ne fait pas les choses n'importe, enfin, sans raison. Dans notre organigramme du CNEF, alors on va avoir, comme je vous l'ai dit, un bureau, et puis on va avoir un comité représentatif, mais en fait, on a 3 comités. Et puis après, on aura X commissions, mais on n'a que 3 comités. Et le... alors, j'ai un trou de mémoire pour le troisième, mais ça va me revenir, j'espère. Le comité représentatif, et second, c'est le comité théologique. Ce n'est pas une commission, c'est un comité. Alors vous allez dire, ouais, ça change quoi? Ça change simplement, vous l'avez noté tout à l'heure, qu'il y a une personne du comité théologique qui est dans... le comité représentatif, qui est donc dans l'organe de décision. Parce que notre idée, c'est justement de dire, les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Bon, ceci dit, ça pourrait être pour toute époque. Mais quand même, je trouve quand même que c'est difficile. Je ne vais pas vous répéter ce que vous savez, mais le relativisme, le laxisme, tout se vaut, rien ne se vaut, etc., tout est pareil et tout, il faut quand même aussi pouvoir dire, attendez, jusqu'ici, mais pas plus loin. Voilà. Et c'est pour cette raison que justement, on dit, non, il n'y a pas une commission de théologie, en même temps qu'il y aurait une commission de je ne sais quoi, mais il y a un comité théologique. Et il n'y en a que 3 comités. Comité représentatif, c'est ce qui permet de fonctionner, comité éthologique, et l'autre, c'est le comité de surveillance. Alors, mettez des guillemets, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, parce qu'on se demande si c'est ça ou pas, mais l'idée étant que ce soit un petit peu comme le conseil constitutionnel, c'est-à-dire un comité qui va être fait de personnes qui, dans, en tout cas, le début, émaneront majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement de l'Alliance évangélique, mais pas uniquement, hein, et de la Fédération évangélique, mais des personnes, on va dire des sages, et dont l'objectif sera de contrôler l'évolution du CNEF et de voir qu'on est bien en accord avec nos principes et notre charte, et pouvoir nous dire à un moment ou à un autre, hey, les amis, là, vous êtes en train de... comment on dit ça? De débloquer, on va dire. Hein. Ou alors de nous dire, non, là, il faut aller un peu plus. Enfin, vous voyez. Donc on se donne un organe qui va... veiller sur nous.
Il a du travail, parce que si c'est par rapport au manifeste de Manille, c'est un manifeste, enfin moi je l'ai lu cet après-midi, c'est quand même extrêmement complet. Oui. Et une de mes questions, justement, je m'interrogeais, je me disais, mais au fond, est-ce que quelle évaluation vous faites de l'application de ce manifeste aujourd'hui dans les églises évangéliques francophones, hein, pour ne pas dire de l'espace français, puisque ce manifeste, il met en œuvre un certain nombre de points d'évaluation, mais aussi de perspectives, avec à chaque fois une demande de pardon, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans les églises concrètement? Moi, j'ai envie de demander, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Comment vous allez l'évaluer? Comment vous allez aussi le mesurer? Comment éventuellement aussi vous allez pouvoir agir pour que concrètement eh bien, le monde évangélique français évolue en rapport avec ce texte, hein, que vous avez tous reconnu, vraisemblablement tous signés, tout ça, en tout cas, vous signez, puisque en tant que comité Conseil national, vous dites dans votre charte que vous adhérez à la confession de foi à Lausanne et à la manifestation, au manifeste de Manille. Donc comment, concrètement, vous allez pouvoir agir, utiliser des leviers pour le faire appliquer dans ceux des unions, les œuvres qui dépendent de vous?
Alors, une précision sémantique. On adhère à une confession de foi, mais on se reconnaît dans les affirmations, la déclaration de Lausanne et du comité du manifeste de Manille. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ça, c'est pas pour se dédouaner, mais c'est juste pour dire qu'on a tenu quand même à dire, même si ces textes paraissent des textes quand même valables, hein, on va dire, hein, on n'accorde pas exactement la même valeur. Hein. Voilà, ça c'est une première des choses. Deuxièmement, je suis, je crois, en tout cas aujourd'hui, je ne suis pas vraiment capable de répondre à cette question qui pourtant est une question pertinente. Hein. Je pense qu'on ne peut hélas constater que très peu de gens encore connaissent dans les églises, chez les pasteurs et a fortiori chez les membres d'église, des documents comme la déclaration de Lausanne ou le manifeste de Manille. Très peu la connaissent. Alors, certains savent qu'elle existe, c'est une chose. Après, qui l'a lu, c'est l'entonnoir, ça, voilà. Qui l'a étudié, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et puis qui a essayé de se dire, bon, alors concrètement, qu'est-ce que j'en fais? La réponse, elle est malheureusement très facile à donner. Hein, voilà. Alors, il y a quand même... quelques signes qui montrent que ces choses ont été prises en compte. Moi, j'évoquerai juste, mais ça c'est au niveau de certaines œuvres, un travail comme le SEL, Service d'entraide et de liaison, avec les projets de développement, et puis la mise en place tout récemment du défi Miché, vont un peu dans ce sens-là. Mais c'est minime par rapport à ce qu'il y a à faire. Hein.
Voilà. Alors par rapport à ça, j'ai une autre question, mais après je laisse la parole aux autres. Mais là, c'est peut-être plus ma déformation, ma formation plutôt d'historien. Mais je suis quand même toujours très perplexe, notamment dans ce que j'ai lu là, dans le manifeste de Manille, et toujours dans cette volonté du monde évangélique français, mais pas seulement.
Oui, le manifeste de Manille, c'est mondial.
Oui. Enfin, du monde évangélique en général, français en particulier, mais pas simplement du monde évangélique, aussi je pense à la Fédération protestante et ainsi de suite, de vouloir faire des œuvres sociales. Mm. Parce que vous c'est pareil, le CNEF se reconnaît dans le réveil, et moi tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu du réveil, les œuvres sociales du réveil naissent d'une spontanéité d'un homme, d'une femme qui aime.
Oui.
Mais pas d'une institution, deviennent ensuite institutionnalisées. Mais c'est d'abord un élan du cœur, c'est un élan individuel, c'est quelque chose de spontané, j'ai presque envie de dire de non réfléchi, même si ce n'est pas complètement vrai, hein. Disons de purement évangélique. Voilà, c'est Jésus qui est devant les foules, qui est pris de compassion pour cette foule, et je dirais ça part de tout petit. J'ai envie de prendre l'exemple même de la diffusion de l'évangile dans l'Empire romain. L'Empire romain, c'est certainement un des plus grands empires qui a existé, hein, sauf sans doute après l'Empire perse, mais disons que l'évangélisation se fait avec 12 apôtres. C'est petit. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui tout institutionnaliser dans un cadre national, européen, mondial, pour avoir une action sur l'ensemble de la Terre? Alors je lis bien, hein, que c'est en vue de préparer le royaume de Dieu et ainsi de suite. Mais je trouve, est-ce qu'on n'inverse pas, c'est une interrogation, une réflexion, hein, j'en sais rien, hein, mais est-ce qu'on n'inverse pas le vecteur au fond? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord chercher, alors c'est peut-être un peu piétiste comme pensée, mais chercher d'abord à s'attacher à Dieu, bon, c'est ce que dit aussi le manifeste de Manille, hein, je l'ai lu, disons avoir une vie de sanctification, une vie authentique, un modèle, être des modèles dans la société, tout ça est dit aussi. Mais toujours, en même temps, avec cependant de l'institutionnalisation, de développer une action vers les pauvres, et ainsi de suite. Jésus n'a pas guéri tous les malades d'Israël, il n'a pas été vers tous les pauvres de l'Empire romain, il n'a même pas demandé à ses apôtres de créer des structures. Il a dit « allez évangéliser avec un bâton, ne prenez rien ». On dirait au contraire que c'est plutôt dépouillé. Et là j'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout. Bon, ben là, maintenant, c'est purement personnel. Mais il y a quelque chose qui me laisse perplexe, parce qu'il me semble que c'est à l'inverse. Il me semble quand même que c'est à l'inverse, en tout cas, historiquement, des œuvres du réveil. Je pense notamment à la fondation de John Bost, qui est née complètement autrement que ça. Parce que John Bost, au départ, il a fait une œuvre, il a accueilli d'abord un orphelin chez lui, et il n'a jamais pensé ouvrir un orphelinat, puis ensuite une maison pour handicapés, comme c'est ce que ça l'est devenu plus tard.
Oui. Non, mais... Alors, c'est... la question est... Je trouve que c'est une vraie question. Je vais essayer, moi, de donner deux, trois éléments qui sont dans ma tête. Et puis voilà. Bon. Alors, concernant par exemple le rapport entre les œuvres et le réveil, effectivement, c'est extrêmement important de noter que le réveil a produit des œuvres sociales. Alors, ce qui est aussi à noter et qui est un peu désolant, c'est que ces œuvres sociales ont été, au bout d'un certain temps, récupérées par les collectivités, par l'État, voilà, et puis que pour plusieurs, elles ont perdu leur âme, hein. pas toutes, mais pour certaines en tout cas. Voilà. Mais ça, c'est un élément. Alors c'est ça qui est quand même déjà intéressant, je dirais, ça c'est le témoignage historique, on verra après le témoignage de l'écriture, on a peut-être dû commencer par là, mais se rendre compte que quand un homme ou une femme, ou en tout cas quand certains hommes et femmes se restaurent ou sont restaurés dans leur relation avec leur créateur, ils ont un autre regard sur leur entourage et ça donne John Bost, mais ça donne même avant les réveils, enfin ce qu'on appelle le réveil parce que là on reste avec le 19e siècle, mais ça donne les hôpitaux bien avant, ça donne le bon samaritain, mine de rien, enfin ça donne plein de choses comme ça. Donc ça c'est une première chose. Alors par derrière il y a l'opposition entre une démarche individuelle qui serait, si je comprends, poussée par l'esprit, puis une démarche institutionnelle ou une démarche d'un groupe qui, alors peut-être que je dis quelque chose qui n'a pas été dit, qui ne serait pas poussée par l'esprit. Je ne vois pas pourquoi on peut l'opposer, d'autant que, même si ça se situe quand même dans le cadre de l'Église, je pense à Acte 6, c'est quand même un groupe qui décide de mettre en place une organisation sociale à destination des veuves qui sont délaissées. Donc je n'opposerai pas aussi radicalement que j'ai cru l'entendre l'individu avec le groupe. Troisièmement, je ne sais pas si à la librairie vous avez ce que je trouve être un excellent ouvrage publié chez Farrell d'un certain Chester qui s'appelle mince. Mais j'ai un trou, mais en tout cas Farrell, je crois que c'est Timothée Chester, hein, qui finalement évoque cette question de l'annonce de la parole et puis de ce qu'on appelle rapidement l'action sociale. Et en fait, il dit qu'il faut les deux. Hein, et en même temps, il dit... Mais s'il n'en fallait qu'un, c'est quand même l'annonce de la parole. Hein. Alors, il ne le dit pas comme ça, hein, mais je massacre un peu son propos. Parce qu'effectivement, entre 70 ans et puis la destinée éternelle, on voit bien ce qu'il faut mettre en balance. Mais il dit quand même, il y a les deux à avoir. Et pourquoi il y a les deux à maintenir? C'est parce que l'action, ce qu'on va appeler l'action sociale, d'une manière très globale et générale, c'est la traduction en acte, de l'amour du prochain, et que nous, les chrétiens, nous devons aimer et manifester notre amour. Et c'est là où j'en viens à l'écriture. Moi, j'ai été extrêmement frappé. Je me trouvais en déplacement dans un pays étranger et j'étais tout seul dans ma chambre. Donc, j'avais pas grand chose à lire. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à l'étranger quelquefois longtemps, mais vous avez besoin de lire, enfin, moi en tout cas, besoin de lire du français. J'avais pas grand chose à lire que ma Bible. Donc, je me suis dit, je vais lire ma Bible. Mais de manière, j'avais un peu de temps devant moi, donc, comme ça. Et j'ai été extrêmement frappé, par exemple, en lisant l'épître de Tite. Alors, parce que c'était celle-là que je me suis mis à lire, de voir le nombre de fois. Et puis vous pourriez le reprendre après, où Paul parle des œuvres bonnes que nous sommes invités à pratiquer. Et alors là, je rajouterais, moi, que probablement un de nos problèmes à nous en tant qu'Église, c'est de ne pas savoir trouver les œuvres bonnes que nous devons pratiquer. Alors, on est un peu loin du CNEF, mais peut-être pas tant que ça. Et alors, je reviens au réveil. Quelle a été la spécificité du réveil en lien avec la création des œuvres sociales? C'est qu'ils ont répondu à des besoins que personne ne prenait en compte. Et moi, voilà ma question à moi. Aujourd'hui, j'ouvre les yeux, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait manifester l'amour de Dieu pour mon prochain, pour l'être humain, et que la société ne prend pas en compte. J'ai pas de réponse, hein, parce qu'on est aussi dans un système qui... Sauf que j'ai quand même l'impression que les temps étant ce qu'ils sont maintenant, on va peut-être trouver plein d'opportunités qu'il y a peut-être 30 ans en arrière, on n'avait pas. Hein, en termes d'accueil des gens qui sont sans logis, des choses comme ça. Et je ne parle pas forcément des clochards, hein, mais des gens qui sont expulsés. Puis enfin bon, passons. Voilà.
Moi, je ne voulais pas parler d'opposition entre un staff et tout ça pour avoir son rôle. Il y a besoin d'une institution. Mm. Le risque, peut-être, maintenant c'est une réflexion comme ça, hein, voilà, là, je réfléchis à haute voix, mais est-ce que le risque, en commençant par une institution, c'est est-ce que ce n'est pas finalement de scléroser un peu la spontanéité?
Oui, mais alors, ok, mais on ne commence pas par une institution. Il y a tout ce qui se fait à l'heure actuelle, il y a toutes les églises, il y a tous les témoignages locaux des uns et des autres, hein. Donc tout ça, ça existe et ça continue d'exister et ça existera même sans le CNEF, et voilà. Hein. Mais simplement, l'institutionnalisation, c'est rentrer dans un langage que certains parlent et ne parlent que ce langage-là. Mmh. Je vous prends un exemple, c'est un exemple local mais que vous pouvez comprendre. Si vous voulez louer la salle des fêtes, il faut que vous soyez une association.
Oui, bien sûr.
Ça va être difficile... A priori, de la louer en tant qu'individu, enfin, sauf exception, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, mais pourquoi votre église vous êtes mis en association
Oui, non, mais ça, c'est
voilà.
Logique,
donc, tout donc, à fait d'accord. Voilà. Mais on est dans cette même logique, l'institution, dans ce cas-là, est un outil et non pas une fin en soi.
Oui, non, mais ça, c'est sûr.
Voilà. Et c'est dans ce sens-là. Mmh. C'est dans ce sens-là. Mmh. C'est le problème du statut.
C'est plus pour que ça soit un outil.
Voilà. Si je vais voir, moi, Stéphane Lozé, le directeur de l'hôpital, prenons l'exemple d'Alès, je dis voilà, je suis Stéphane Lozé, je viens vous voir, il me recevra, il ne me recevra pas. Si j'y vais, alors je ne suis plus Stéphane Lozé, si c'est Charles Nicolas qui est avec son statut aumônier, il sera reçu. Voilà, ça fonctionne comme ça. Hein. Eh bien. On va dans ce sens-là. Mais ne nous trompons pas. L'institution est un outil. Ce n'est pas un parapluie. Le parapluie, je ne veux pas être plus spirituel que je suis, mais le parapluie, c'est le Seigneur. Ne croyons pas non plus que le fait de s'organiser un peu mieux, le fait peut-être de pouvoir avoir tel ou tel contact, etc., va nous préserver de je ne sais trop quel ennui à un moment ou à un autre. Ne soyons pas naïfs. Ne mettons pas notre confiance, pour parler comme l'Écriture, dans la chair. Être très clair là-dessus. Mais en même temps, alors je reviens très loin dans l'écriture, mais le beau-père de Moïse a dit organise-toi un peu. Ben c'est ça, hein, pour le dire de manière un peu rapide.
Justement, est-ce que le fait de s'institutionnaliser et de devenir visible au niveau de l'État ne va pas conduire à une responsabilité supérieure par rapport à l'ensemble de qui on représente dans l'articulation avec l'État, la représentativité va aller dans les deux sens, donc comment on va gérer les contraintes, parce que c'est clair que la volonté de l'État, c'est d'avoir un représentant des droits de la religion en France, etc. Donc quelle responsabilité on prend par rapport à ceux qu'on risque de marginaliser davantage, parce que justement ils appartiennent au CNEF et à la Fédération protestante, et avec l'histoire des sectes qu'on a connues il y a quelques années, est-ce qu'on risque pas, malgré tout, indirectement, de devenir responsable de ce qui est la norme par rapport à l'État, et ce qui est marginal, et qui va le décider, sur quelle base, etc. Je trouve que c'est une responsabilité qui est énorme pour avoir été cité dans la Cité des Sectes en tant que mission Timothée, par rapport au fait de ne pas adhérer à ceci ou à cela. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, mais qui est aussi de la responsabilité de ceux qui représentent quelque chose, cela disant, de ne pas pouvoir non plus couvrir tout le monde, et donc indirectement de laisser tomber.
Oui, mais sauf erreur de ma part, puisque vous évoquez la mission de Timothée, hein, elle a été défendue aussi, sauf erreur, mais peut-être que vous allez me contredire, par notamment la Fédération protestante, c'est son président de l'époque, hein, alors même qu'elle n'en faisait pas partie, je cherchais ma concordance de temps. On est d'accord, hein ?
D'accord.
Voilà. Donc, ça veut juste dire qu'effectivement, un des problèmes du CNEF, du CNEF, mais de n'importe quelle institution, c'est effectif, de ce style-là, c'est qu'effectivement, il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont à l'extérieur. Bien. Et comment effectivement garantir que l'État, puisque c'est ça dont vous parlez, ne va pas dire « Ah ben, si ils sont à l'extérieur, c'est que c'est des mauvais, et ceux qui sont à l'intérieur sont des bons. » Effectivement, c'est un risque.
Alors que je trouve que la dispersion, le maquis, il me semble que c'est parfois la meilleure des forces.
Le meilleur des ?
Le meilleur des forces.
Oui, mais... Alors, si on reste avec cette manière de parler, hein. Non, mais c'est une vraie question. Effectivement, on peut, et je me la suis posée, et d'autres se sont posées, se dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à rester comme ça, comme les petits cochons corses dans le maquis, hein, ou comme les sangliers dans les Cévennes, hein, voilà. Bon. Alors, quel est l'avantage et il faudrait voir quelles sont les raisons qui nous font privilégier le maquis, pour rester dans l'image, à quelque chose d'un peu mieux organisé. Moi, il me semble que l'organisation permet justement la défense organisée, puisque vous évoquez ce terme-là, et même la défense de ceux qui n'ont pas voulu être à l'intérieur, alors même qu'ils sont quand même des frères et des sœurs. Je crois que ça permet ça. Pendant un temps, en tout cas. Alors, quand je dis ça, c'est parce que je crois, moi, personnellement, qu'il y aura un moment où, malgré tout ça, alors ce sera dans 5 ans, dans 50 ans, j'en sais strictement rien, mais où il y aura un temps où, bon, eh ben, on est prévenu. Hein, ce sera... Hein ? Oui, ce sera... Et on aura de vrais soucis, hein, en tant que chrétien, qu'on soit dans le maquis ou pas dans le maquis. Voilà. Mais pendant un temps, je me dis, tant qu'on peut faire en sorte de pouvoir favoriser la liberté religieuse dans notre pays, et donc la liberté de pouvoir annoncer l'Évangile, eh ben, moi je crois que c'est notre responsabilité de le faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut, je crois, en tout cas que moi je plaide en faveur de cette institutionnalisation. C'est dans cet objectif-là, mais sans... comment dire, sans naïveté, hein, sans naïveté.
Sans sacraliser,
voilà. Quand on reste dedans, dehors, je crois que pour l'État, ça ne veut pas forcément toujours dire la même chose que pour nous. Hein. Un peu.
C'est quand même une idée. Au début, tu disais qu'avant ça, il y avait 70% des gens évangéliques qui étaient représentés dès le départ.
Oui.
Est-ce qu'on a une idée du pourcentage que le CNEF peut représenter ? Parce que ça augmente pas mal avec les autres unions d'église, etc.
Non, mais le CNEF ambitionne de représenter à peu près 70%.
Okay.
Voilà. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est un peu difficile de le dire. Mais c'est à peu près ça.
L'Alliance évangélique, je crois, a noué des dialogues avec l'Église catholique.
Oui. Hein, enfin, comme oui, c'est pour savoir si c'est la bonne formulation.
Des dialogues, en tout cas, une tentative de découverte de l'un et de l'autre, une meilleure connaissance peut-être de la part des catholiques du monde évangélique. Et la Fédération protestante de France a aussi des dialogues les plus poussés, voire des contacts plus intenses aussi. Je ne sais pas si on peut parler d'associations parfois. Comment le CNEF va se positionner par rapport à tout ça ?
Bon, c'est une question délicate, mais alors elle est délicate, je vais y répondre, mais j'aimerais que vous écoutiez bien, parce que c'est plein de nuances. Et je dirais avant toute chose qu'effectivement, ce n'est pas forcément sans ambiguïté. Alors. C'est pour ça que je faisais un peu la moue par rapport aux mots. Nous dirions qu'on n'a pas de dialogue, mais on a des conversations. Parce que je suis d'accord que ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais parce qu'il semblerait que le mot dialogue ait un sens technique dans les milieux écuménisants qui est plus impliquant que le mot de conversation. Voilà, ça c'est la première des choses. Mais je vais quand même employer indifféremment le mot dialoguer et converser, parce que c'est finalement plus simple de dire dialoguer pour moi que converser. Alors, je ne vais pas faire de comparaison non plus avec ce qui se passe avec la Fédération protestante, je vais juste dire ce qui se passe dans l'Alliance évangélique mondiale et dans l'Alliance évangélique française et ce qui va se passer dans le CNEF. Dans l'Alliance, alors, dans l'Alliance évangélique mondiale, il y a de ça plusieurs dizaines d'années, avait sorti un texte sur le catholicisme romain. Ce texte est tombé dans les mains de je ne sais trop quel épiscope, voilà, qui l'a lu et qui a dit « Mais attendez, mais vous n'avez rien compris. Ce que vous dites, ce n'est pas ça, etc. etc. » Ça remonte à, je sais pas, 20 ans, 25 ans en arrière. Donc, il a eu un contact avec je ne sais trop qui dans l'Alliance évangélique mondiale, et de là est née l'idée d'un dialogue entre je ne sais plus trop quelle instance vaticanesque et l'Alliance évangélique mondiale. L'idée de ce dialogue, c'était que des théologiens des deux bords discutent sur des sujets. Et ça a donné, il n'y a pas très longtemps, un document qui s'appelle l'Évangile et les liens de la koinonia. Alors, ce qui est très intéressant à lire dans ce document, c'est pas tant l'intérieur, enfin, c'est intéressant, que l'introduction, à moins que ce soit la postface, qui dit, de toute façon, ces textes n'engagent personne d'autre que les gens qui les ont rédigés. Voilà. Donc, ça n'engage pas le Vatican et ça n'engage pas l'Alliance évangélique mondiale. Mais ce sont des gens qui ont discuté ensemble et puis qui ont sorti un texte. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors, j'ai mis du temps à comprendre quelle était exactement la motivation de l'Alliance évangélique mondiale dans ses dialogues avec l'Église catholique, jusqu'à un événement d'il y a 2 ou 3 ans, sauf erreur, ou 3 ou 4, peut-être que c'est venu jusqu'à vous, où il y a eu à Toulouse, pendant un été, une réunion entre l'Église catholique, le Conseil œcuménique des Églises et l'Alliance évangélique mondiale, et les journaux ont titré « Pour un code de la conversion ». Et l'article tel que vous le lisiez, et surtout si vous lisiez comme vous lisiez le journal, c'est-à-dire comme on le lit tous rapidement, ça avait l'air de dire « Ben voilà, ils se mettent d'accord pour dire comment on va convertir les uns et les autres ». Donc on voit un peu ce que ça peut avoir de scandaleux, me semble-t-il. Et on a eu des réactions, ce qui m'a amené après à réagir auprès de l'Alliance évangélique mondiale, en disant « mais de quoi il s'agit ? » Puis en plus, ça se passe en France, on n'est même pas au courant, enfin, qu'est-ce que c'est ? Enfin, bon, voilà. En fait, c'était quoi ? C'était les musulmans. Vous savez qu'il y a une commission de dialogue entre le Vatican et l'islam, hein, entre catholicisme et islam, qui réagissait auprès du Vatican parce qu'il voit bien qu'il y a de l'évangélisation qui se passe dans les terres musulmanes, et ils voyaient des choses, et ils n'ont pas fait le distinguo qui fait quoi, ils sont allés vers les catholiques. Les catholiques n'ont pas réellement ce genre d'évangélisation un peu agressive que certains évangéliques peuvent avoir. Ils ont mis le temps à comprendre, et après ils ont dit « Ah oui, non, mais c'est des évangéliques, donc on va faire une réunion avec eux. » Et donc, il y a eu une réunion aux évangéliques pour pouvoir s'expliquer et pour pouvoir répondre aux accusations qui étaient là. Les accusations, c'était « Ben voilà, ils font des hôpitaux pour convertir, ils donnent de l'argent pour, etc. etc. » Alors, il est probablement vrai que certains missionnaires peu scrupuleux gonflent leurs chiffres et leurs statistiques et font des photos de ceci et de cela par rapport à l'ordonnateur. Malheureusement, ça existe. Et il est possible, et peut-être probable même, qu'ici ou là, il y a eu ces pratiques-là. Mais ce qu'a fait l'Alliance évangélique dans ces discours-là, c'était de dire « Attendez, le mandat des chrétiens, c'est d'aller et d'annoncer l'Évangile. Donc, nous sommes d'accord avec vous. Si certains achètent des conversions, c'est condamné. Mais ceci dit, faire des écoles, faire des hôpitaux, donner à manger, etc., ça fait partie de l'amour du prochain, ça fait partie de notre mandat, et nous plaidons pour continuer à avoir ce droit-là. » Donc vous voyez qu'on est loin de dire « on va faire copain-copain, on va s'arranger ». Et en disant ça, ça ne reprenait grosso modo que les affirmations de Lausanne et de Magny par rapport à l'Évangile et l'action sociale, et par rapport aussi au fait qu'il fallait dissocier, parce que chez nous ça paraît aberrant, mais dans certains pays c'est vrai que monnaie les conversions. Oui, ça, c'est, il faut le. Alors, est-ce vraiment des conversions, hein? Et est-ce vraiment l'évangélisation? Alors après, maintenant, partant de là, l'Église catholique en France, parce que c'est ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre la montée du mouvement évangélique. Elle a déjà des dialogues avec les luthéro-réformés, et elle s'aperçoit quand même que, je suis un peu dans le schéma, enfin dans la caricature, mais elle s'aperçoit quand même que sur plusieurs sujets importants, avec les luthéro-réformés, ça ne colle pas. La naissance virginale de Jésus, par exemple, hein, ou d'autres choses comme ça. Alors je ne dis pas avec tous, hein, je précise, mais voilà, avec certains. Anecdote véridique de ça quelques années, le délégué à l'écuménisme de Nîmes, qui voit la couverture du journal Nuance, donc le mensuel des Églises réformées, au moment de Noël, je ne sais plus, c'était titré l'Annonciation, Jésus né de la Vierge Marie, enfin un truc comme ça, et qui dit au pasteur, je crois que c'était à Paul Aimé, il dit, mais vous y croyez? Alors il dit, ben oui, bien sûr, pourquoi? Ben parce que, et puis l'autre cite tel collègue réformé, avec lui, si tu savais, tout ce qu'il peut dire là-dessus. Voyez. Donc, le catholicisme qui découvre l'émergence du monde évangélique, qui découvre aussi une certaine proximité au plan éthique, et quand même sur des grandes affirmations du credo. Et en même temps, qui voit des choses qui ne lui plaisent pas chez les évangéliques, il faut être clair. Hein. Bon, voilà. Alors, après, qui, par un concours de circonstances, commence des dialogues avec certains évangéliques en disant « il ne faut pas le dire » et tout, et puis qui, au bout d'un certain temps, dit, parce que ça, c'est le problème, ça rejoint la question de tout à l'heure, d'un système comme l'Église catholique, qui est une institution qui dit « nous, on ne veut plus parler avec des individus, on veut parler avec une institution ». Et qui demande, alors, les évangéliques de ce groupe-là, qui disent à l'Alliance évangélique « alors, vous voulez nous couvrir ou pas ?» Alors, nous avons accepté. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très clair. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller à la messe et qu'on va concélébrer, etc., etc.? La réponse est clairement non. Nous ne sommes pas dans ce style de démarche-là. Est-ce qu'on va refuser de parler avec eux? La réponse est tout aussi claire. Non. Et pourquoi? Mais parce que... Alors, soit on l'a fait sur le mode très ouvert et tout, soit on le fait sur le mode très brutal, mais moi, je vais prendre le mode assez enregistré, là, oui, alors donc je vais le prendre sur le mode très, très, très politiquement correct, c'est que nous avons sans doute beaucoup de choses à apprendre de l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas sûr que ce que nous croyons, que les catholiques croient, ils le croient forcément, voilà. Il y a peut-être des choses à entendre, voilà. Mais en même temps, moi je crois, et tant pis si ça choque, mais que j'ai des choses à leur dire. Et que c'est peut-être important que, dans une sorte de sérénité tranquille, ils puissent entendre quelque chose qui soit dit en disant « Non, écoute, voilà hein, !» et qu'ils puissent être interpellés. Donc, c'est ça le sens même du dialogue. Et alors, moi, je rajoute que dialoguer ne signifie pas se compromettre, sinon Jésus s'est compromis avec plein de gens. Et comme c'est quand même notre modèle, on voit bien qu'il a parlé avec plein de gens avec qui il n'était pas d'accord, au plan théologique, au plan moral, au plan politique peut-être, j'en sais rien, en tout cas il a parlé avec plein de gens. Et donc je crois qu'il faut, que nous grandissions et qu'en même temps nous entendions, oui il peut y avoir de l'ambiguïté, oui peut-être certains frères ou sœurs peuvent mal interpréter les choses, alors comment les préserver, d'être un objet de scandale, bon, ça c'est pas simple, mais en même temps, soyons rassurés hein, de ce point de vue-là. Alors, le CNEF, effectivement, va reprendre ce dialogue-là, mais ça, pour l'instant, ça n'ira pas... Ça n'ira
conversation.
Pas. C'est conversation. Merci, voilà. Alors. Tout en acceptant qu'effectivement, en son sein, il y a des gens qui sont, je dirais,
plus dialogués.
Ouais, disons-le comme ça. Voilà. Non, parce que j'hésitais à dire plus ouvert ou plus en avant, parce que ça signifierait qu'il faut aller dans ce sens-là et tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais qu'effectivement, qu'ils ont une manière de faire différente et qu'ils s'impliquent peut-être plus. Voilà. Bon. C'est pas notre sujet. Moi, je ne peux quand même qu'être interrogé par ce que je vois chez certains catholiques quand même. J'ai l'impression qu'ils nous piquent ce qu'on faisait dans certains cas. Hein. Je sais pas si vous avez vu cet été, c'est que ces campagnes d'évangélisation faites sur les plages par des groupes catholiques. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont fait, etc. Hein. Bon, je me souviens m'être trouvé à la fête de la musique à Paris et passé boulevard Saint-Michel devant l'église Saint-Germain. Eh bien, c'était moi, il y a 25 ans, avec mes sabots et mes cheveux un peu plus longs et ma guitare et d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui me distribuaient des versets bibliques. Alors, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose. Voilà. Mais ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. C'est juste qu'il faut peut-être être attentif et peut-être ne pas freiner des évolutions par, quelquefois, une manière un peu sèche de dire, attendez, voilà, non. Mais non à la confusion. Et que les uns et les autres, nous encourageons à cela et que nous exhortons à cela. Une dernière question, c'est ça? Ou plus de questions? Ah non, mais moi je... Il pleut plus. Donc,
est-ce que par décourtement, est-ce que l'idée, c'est que le confrontement de la création de pastoral référencé neuf dans les différents niveaux locaux?
Oui, l'idée, elle est là. Mais si ça passe pas, on se battra pas.
Oui. Mais c'est pas une consigne.
C'est un objectif, mais... Mais je redis, s'il y a des choses qui se passent bien et puis qui ne veulent pas s'appeler CNEF, l'objectif c'est que ça se passe bien. Voilà. Je suis clair ou pas?
Oui.
Voilà. Mais ce serait mieux.
Merci beaucoup Stéphane pour tous ces éclaircissements sur le CNEF, avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Alors, je précise juste avant de nous quitter et avant le rafraîchissement que...